l'été, entre midi et 12h30, France Culture vous propose des portraits de penseurs et d'intellectuels des États-Unis, dont les idées nous nourrissent encore nos débats. C'est ainsi que dans les semaines qui viennent, Toni Morrison, John Rawls, Susan Sontag ou encore Judith Butler prendront la place de l'inconnue célèbre qu'est Rachel Carson, autrice du Printemps silencieux, un des livres fondateurs de l'écologie moderne. Lundi, son éditeur français, Baptiste Lanaspès, nous a expliqué le succès éditorial de cette biologiste marine née en 1907. Hier, l'historienne de l'environnement Elsa Devienne nous a dit sa place dans la longue histoire des défenseurs de l'environnement aux États-Unis. Et ce midi, nous avons la chance de recevoir la documentariste et écrivaine Marie-Monique Robin, la seule lauréate française du prix Rachel Carson, institué au début des années 1990 en Norvège et qui récompense une femme dont le travail a fait progresser la connaissance environnementale.
La conservation des richesses naturelles est exposée à la convergence d'intérêts multiples, puissants, bien établis, qui lui sont contraires. Pour s'y opposer victorieusement, il faut susciter et organiser une action massive et vigoureuse. Elle ne peut trouver son levier que dans l'éducation, et l'éducation qui se crée, elle aussi, ne peut découvrir ses chances que dans la propagande et dans l'enseignement. Le thème qui résume la philosophie de la conservation s'inspire de cette certitude comme quoi la propre existence de l'homme dépend du traitement que celui-ci inflige et infligera aux éléments de la nature. L'égoïsme intégral, qu'il soit représenté par un exploitant forestier, un braconnier, une société capitaliste ou la population d'un village noir nomade, opposera à une telle éducation la réalité de son intérêt total et immédiate en dehors de toute considération d'utilité collective. Ce sont là de ces cas que seule la répression peut résoudre, la loi est faite pour cela.
Et pour ouvrir cette émission avec vous, Marie-Monique Robin, bonjour.
Bonjour.
C'était la voix de Roger Heim. Il est un peu oublié aujourd'hui, mais il a été le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle dans les années 1950 et 1960. Il était le préfacier également de la première édition française du Printemps silencieux de Rachel Carson qui nous occupe toute cette semaine. C'était un acteur de la préservation, comme il le dit, de l'environnement. Et c'est vrai que ce qu'il dit dès 1950, puisque cette archive date de 1950, correspond à ce que disait en 1962 dans le Printemps silencieux Rachel Carson et ce que vous dites vous depuis les années 1990. Donc vous êtes documentariste, écrivaine, on se souvient entre autres du Monde selon Monsanto mais également de votre dernier livre paru, donc Roundup face à ses juges, des livres qui justement dénoncent, comme le dit Roger Heim dans cette archive, les intérêts multiples qui sont à l'œuvre sur la question de l'environnement.
Oui, tout à fait. Alors, Roger Heim, il a préfacé la version française du Printemps silencieux qui est sortie en 1963. Et à mon tour, je vais citer un petit bout de ce qu'il a dit. On arrête les gangsters, on tire sur les auteurs de hold-up, on guillotine les assassins. Mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics instillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leur profit et à leurs imprudences. Donc, c'est lui, ce sont ses mots.
Donc, et ça vous satisfait, évidemment.
Ah, bah oui, je me souviens quand j'écrivais mon livre, là, c'est une citation que j'ai donc donnée dans Notre poison quotidien, où je parle longuement de Rachel Carson. J'avais été surprise par la puissance de ses mots, quoi. On est au tout début des années 60. Alors, il faut comprendre que Rachel Carson, c'est vraiment la première lanceuse d'alerte, Whistleblower, comme on dit mm-hmm. à l'époque, le mot n'existe même pas. Mm-hmm. Et c'est l'une des fondatrices du mouvement écologiste. Et c'est d'autant plus remarquable que, d'abord, c'était une femme. Mm-hmm. Et dans mon livre, j'ai cité sa biographe qui disait « Dans l'Amérique d'après-guerre, la science est Dieu et la science est mal. » Mal, vous voyez, avec un accent circonflexe.
Bien sûr.
Ce qui fait d'ailleurs que Rachel Carson, quand elle écrit ses premiers articles... Vous l'avez rappelé, hein, elle est biologiste marine, elle travaille à la US Fish and Wildlife Service, le département de la pêche et de la faune. Elle se fait passer pour un homme en signant E.L. Carson.
Ah oui, parce que c'était mal vu d'être une femme dans ce milieu-là, dans les années de la fin, d'avant la Seconde Guerre mondiale et du début de la guerre mondiale, c'est cela?
Tout à fait. Et puis, on considérait que la science était quand même une histoire de testicules, quand même. Enfin, excusez-moi. Donc, voilà. Et ce qui est si remarquable, c'est que cet ouvrage qui va être vendu en quelques semaines à 600 000 exemplaires aux États-Unis, enfin, etc., a eu vraiment, et qui traitait de questions a priori ardues, hein, comme les conséquences de la pollution sur l'environnement. C'est la première fois, hein, que c'était fait par une scientifique. Connaissent un tel succès populaire et mobilisent pendant des mois la communauté scientifique, la presse, l'industrie et jusqu'à la Maison Blanche, quoi. C'est inouï, quoi.
Et parce que il faut dire que c'est un dossier, et quand on lit encore aujourd'hui Le Printemps Silencieux, et nous sommes nombreux à le découvrir après en avoir entendu parler. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup lu d'histoire environnementale où ce livre est tout le temps cité d'une certaine façon. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est un véritable dossier au sens journalistique ou documentaire du terme. C'est-à-dire qu'elle a travaillé longuement pour pouvoir rassembler ce qui va devenir des preuves, justement, des atteintes à l'environnement par l'industrie chimique.
Oui, c'est la première fois. Alors, il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour plein de raisons que j'ai d'ailleurs décrites dans mes films et livres précédents, dont Le Monde sur le Monsanto, hein, il faut reconstruire l'Europe, il faut nourrir les populations, donc on se lance à fond dans l'agriculture industrielle. Évidemment, avec le soutien massif, plus que ça, hein, ce sont eux qui tirent les ficelles de l'industrie chimique. Et pour tout le monde à l'époque, on est après, donc c'est la fin, c'est les années 50, la chimie, c'est la solution au problème de faim, F-A-I-M, dans le monde, de nourriture, etc. Donc il y a personne qui questionne ça, personne. Et c'est donc elle qui, pour la première fois, va dire, attention, ce qu'elle appelle les élixirs de mort, les pesticides, ont des impacts sur la faune sauvage, mais aussi sur les hommes. Et c'est intéressant d'expliquer comment elle se lance dans cette grande aventure, hein, parce qu'à l'époque, elle ne sait pas non plus que son livre, évidemment, va avoir un tel succès. C'est en 1957, hein, lorsque le département de l'agriculture américain annonce à grand renfort de publicité une campagne d'éradication des fourmis de feu. Insecte d'origine latino-américaine, hein, qui est entré aux États-Unis dans les années 30 depuis un port de l'Alabama. Et là, elle a connaissance de courriers qui sont faits par, alors j'allais dire de petits agents, alors pas voilà, c'est-à-dire des agents locaux, notamment du département où elle travaille, hein, que j'ai cité avant, et qui vont faire des courriers, qui vont faire des rapports. Et ce qu'elle va faire, en fait, c'est vraiment poser la première pierre de ce qu'on va appeler ensuite la science citoyenne, c'est-à-dire des scientifiques qui travaillent avec des experts de terrain. Alors, ça peut être un correspondant de la Wish and Wildlife du département où elle travaille, mais ça peut être aussi, dans son livre, elle raconte comment elle a consulté tous ces documents, toutes ces lettres écrites par une vieille dame qui observe que depuis quelque temps, il n'y a plus d'oiseaux au printemps dans son jardin, vous voyez. Et elle va consulter toutes ces informations, elle va les rassembler, et c'est comme ça qu'elle va nourrir son livre, ce livre extraordinaire, Le Printemps Silencieux, qu'elle avait d'ailleurs pensé appeler au début Le Silence des Oiseaux.
Voilà. Avec et effectivement ça, la société Audubon, qui est cette société qui protège les oiseaux aux États-Unis, avec les conservateurs des eaux et forêts qui parfois lui envoient des messages également, etc. C'est-à-dire effectivement ce que vous décrivez, c'est très intéressant. C'est les prémices de ce que vous appelez la science citoyenne, Marie-Monique Robin.
Tout à fait. Et ça n'avait jamais été fait. Et parce que on était à l'époque, vous voyez, c'était la grande euphorie. Le DDT, moi, quand j'ai fait mon film Notre poison quotidien, j'ai consulté des archives à l'INA, extraordinaire, quoi. Le DDT, on pulvérisait dans toutes les rues, on en mettait dans les maisons. Enfin, c'est incroyable quand on sait aujourd'hui que cet insecticide, donc miracle, comme on disait à l'époque, est un perturbateur endocrinien, fait partie des 12 POP, hein, donc les polluants persistants de la conférence de Stockholm, c'est-à-dire que il est interdit maintenant, grâce à Rachel Carson, hein, en usage agricole depuis 1971, et on en retrouve encore dans la graisse des ours blancs et dans nos cheveux. Moi, j'ai participé une fois avec Génération Future à une analyse qui avait été faite avec une trentaine de personnalités, et on a retrouvé du DDT dans mes cheveux. Enfin, voilà. Et donc, c'est absolument... on a comparé le cataclysme qu'a déclenché le livre de Rachel Carson à celui provoqué en son temps par L'Origine des espèces de Charles Darwin. Mais c'est vrai que l'impact est considérable, quoi. D'abord, évidemment, ça va provoquer la fureur de ma compagnie préférée,
Monsanto.
C'est incroyable, je raconte tout ça dans notre présent quotidien, hein, qui va écrire un contre-texte pour dire qu'il n'y avait pas les pesticides, et eh bien ce serait la mort partout, tout le monde mourrait de faim, etc. Et ils vont traiter mademoiselle Rachel Carson, vous voyez, hein, de femme hystérique, de petite copine des oiseaux et des gentils lapins, d'adepte fanatique du culte de l'équilibre de la nature, bon, toutes choses qu'on peut encore entendre aujourd'hui d'ailleurs en fait. Mm-hmm. Hein, enfin, bon. Et même, ça va être repris par Time Magazine, qui va fustiger en septembre 1962 le débordement émotionnel et erroné d'un livre bourré de simplifications et d'erreurs grossières. Enfin, vous voyez, la charge est lourde, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs 37 ans plus tard le même magazine de classer Rachel Carson parmi les 100 personnes les plus influentes du XXe siècle, comme quoi, eh bien, c'est bien de reconnaître ses erreurs.
Enfin, vérité, voilà. Donc, en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. On connaît effectivement la phrase de Pascal. Et d'ailleurs, pour ce que vous dites à propos de Rachel Carson et de l'état, disons, d'ébriété, pourrait-on dire, de l'industrie américaine et de l'opinion américaine à ce moment-là, elle l'évoque dans son livre Le Printemps Silencieux, un extrait justement de ce qu'elle appelle les jolis jouets tout neufs.
Les herbicides chimiques sont de jolis jouets, tout neufs. Leurs effets sont spectaculaires. Ils donnent à qui les emploie l'étourdissante impression de régenter la nature. Quant à leurs conséquences lointaines, il est aisé d'en faire fi, comme si elles n'avaient de réalité que dans l'imagination des pessimistes. Le mécanicien agricole parle allègrement de défonçage chimique dans un monde pressé de fondre les socs de charrues pour en faire des pulvérisateurs. Les édiles de milliers de villages prêtent une oreille attentive aux vendeurs de produits chimiques et aux entrepreneurs qui promettent de nettoyer les banquettes de route à bas prix. Moins cher que la faux, tel est le cri de guerre. Cela semble vrai, peut-être, sur les comptes d'emploi du budget de la mairie. Mais si l'on fait un bilan complet, en faisant figurer en face des dépenses numéraires les pertes de toutes sortes subies par la nature, l'averse de produits chimiques paraît bien coûteuse. Est bien dangereuse aussi pour l'avenir des campagnes et de ce qui en dépend.
Page 110 de l'édition française de Rachel Carson, Printemps silencieux, paru aux éditions Wild Project. Nous sommes avec vous, Marie-Monique Robin, pour évoquer cette figure de lanceuse d'alerte qu'a été donc la figure de Rachel Carson. C'est vrai que ce qui est fort dans la pensée de Carson et dans ce livre en particulier, c'est ce que vous appelez le caractère holistique de sa pensée et qui vous fait penser à ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire tout mettre en relation pour pouvoir comprendre ce qu'est la question environnementale.
Oui, alors tout à fait. Elle est la première à vraiment penser global. C'est-à-dire, et là je vais donner un exemple, c'est une étude qu'elle elle-même cite dans Le Printemps silencieux et qui montre cette nécessité d'être interconnecté et d'avoir une vision globale. Elle raconte que le professeur George Wallace, qui était un ornithologue à l'université du Michigan, à la suite d'un épandage de DDT, justement, dans le campus et ses environs, on est en 1954, eh bien, ce programme d'éradication était destiné à détruire les coléoptères qui étaient soupçonnés de transmettre une maladie aux ormes, les arbres. Et il rapporte dans une étude qui lui parvient, donc à Rachel Carson, qu'au printemps suivant, tout semble normal. Les rouges-gorges affluent sur le campus arboré pour faire leur nid. Puis tout d'un coup, le parc universitaire se transforme en cimetière. En fait, tous les rouges-gorges qui se nourrissent de vers de terre, eh bien, meurent parce que les vers de terre sont bourrés de DDT. Alors, donc là, il y a un lien, vous voyez, entre les vers de terre, les rouges-gorges et les DDT. Et puis, les années suivantes, ils constatent que les malheureux rouges-gorges qui ont pu survivre continuent de faire des nids, mais ne pondent pas d'œufs. Et ils planent sur les survivants ce que Rachel Carson appelle l'ombre de la stérilité. Et d'ailleurs, elle s'interroge, elle dit... qu'est-ce qui va se passer avec les enfants qui naissent aujourd'hui et qui sont exposés à ces substances depuis la naissance et même peut-être avant la naissance. Elle ajoute, nous n'en savons absolument rien car nous n'avons jamais connu ce genre d'expérience auparavant. Et là, on voit vraiment comment elle reconnecte.
Bien sûr.
Y compris des disciplines qui pourraient être éloignées. Et elle est vraiment en ça, vraiment, c'est une pionnière. Qui va inspirer d'ailleurs ensuite, malheureusement, elle n'aura pas la réponse elle-même à cette question, parce que, vous savez, elle est emportée très jeune par un cancer. Hein.
Mm-hmm. En 1964.
Voilà, c'est ça, elle a 54 ans, je crois, cancer du sein. Et elle inspirera notamment Théo Colborn, qui a eu, comme moi, donc, le prix Rachel Carson, mais 10 ans plus tôt, qui est aujourd'hui décédé, mais moi que j'ai rencontré dans le Colorado, et qui a vraiment été bouleversée par le livre de Rachel Carson, et qui, elle, va vraiment inventer le concept de perturbateur endocrinien. Et elle a aussi écrit un livre qui est une référence, « Our Stolen Future », qui a été traduit en français par « L'homme menacé de disparition », où elle va expliquer voilà, ce qu'avait constaté le professeur Georges Vallès, pourquoi les rouges-gorges eh bien, ne pompent pas d'eux, eh bien, parce qu'ils sont leur système de reproduction est affecté par ces perturbateurs endocriniens qui agissent à de très faibles doses et qui provoquent notamment des problèmes de stérilité. Donc, elle a vraiment, très tôt, eu cette vision, et qui est une vision alors holistique, évidemment, mais qui est vraiment importante, et tout particulièrement aujourd'hui. Hein. Vous savez, moi, je prépare un film qui sera diffusé le 22 mai 2022, donc 22-22, hein, sur Ushuaïa TV avec beaucoup de partenaires, et un livre qui va sortir bientôt à la découverte au mois d'octobre sur les liens entre la biodiversité et la santé.
Qui s'appelle La Fabrique des Pandémies, c'est ça ?
Ça, La Fabrique des Pandémies. Comment préserver la biodiversité protège notre santé. Et vous verrez tous ces scientifiques dans le monde entier qui peuvent être ornithologues, zoologues, qui peuvent être tout simplement généticiens ou biologistes, enfin, ou anthropologues, depuis 15 ans, tirent la sonnette d'alarme en disant il y a un lien entre la destruction de la biodiversité et la santé. Et qui montrent qu'il faut, si on veut sortir de ces crises environnementales énormes qui nous menacent, évidemment le dérèglement climatique, évidemment l'extinction de la biodiversité, et avec cet aspect que le grand public vient de découvrir, qui sont les zoonoses, donc les maladies transmises par les animaux sauvages à l'homme, et dont fait partie évidemment le Covid-19, eh bien il faut avoir cette vision holistique. Alors, et à commencer par la science, c'est-à-dire que vous savez, dans la science, et Rachel Carson montre justement, déjà montre une autre voie. Hein. La science, elle travaille par silos, on appelle ça des silos, hein, des disciplines. Donc c'est très important, effectivement, que chaque discipline ait une expertise très, très, très précise, quoi. Hein. Donc on a besoin de spécialistes, d'experts dans leur champ, mais il faut...
Qu'ils travaillent ensemble.
Qu'ils travaillent ensemble, parce que si on ne le fait pas... Eh bien, vous voyez, on ne fait pas de rapport, par exemple, très longtemps, on n'a pas fait de rapport, c'est ce que vont montrer mon prochain film et livre, entre le fait que quand on détruit la biodiversité dans une forêt, par exemple, on réduit la communauté des animaux qui sont là, et notamment des espèces de rongeurs, et en fait, ne reste que des rongeurs, des espèces de rongeurs qui sont capables de survivre dans ce genre d'environnement
dégradé,
et ce sont eux-mêmes, ces rongeurs-là, qu'on appelle des généralistes, d'ailleurs, comparés aux spécialistes, qui sont, eux, liés plutôt à des niches environnementales, et quand ces niches disparaissent, ils disparaissent, restent les généralistes, qui sont justement ceux qui sont les réservoirs de virus pathogènes. Donc, par exemple...
La chauve-souris, par exemple, fait partie de ce genre d'animaux.
Alors, voilà, alors la chauve-souris, par exemple, vous verrez dans mon prochain film et livre comment des scientifiques ont démontré que les pressions exercées par les activités anthropiques dans les forêts où elles vivent, dans les grottes qui sont souvent dans des forêts, exercent sur elles une pression, un stress qui va transformer leur système immunitaire, l'affaiblir et va faire qu'elles vont excréter beaucoup plus de pathogènes que quand elles vivent tranquillement dans leur grotte. Donc vous voyez, ce sont des mécanismes qui montrent que la biodiversité, souvent on s'est dit, bon, c'est quand même triste, hein, les éléphants disparaissent, les tigres disparaissent, bien sûr. C'est triste. Mais en plus, s'ils disparaissent, c'est un signe que nous allons disparaître derrière. Excusez-moi d'être brutal. Hein. Et si, vous voyez, les questions de santé, c'est aussi une question de conservation. Alors, vous voyez, tout est lié. Et donc, on a besoin de cette vision globale. Alors, elle est proposée par différents paradigmes que je trouve très intéressants. L'un s'appelle One Health, donc une santé, une seule santé, hein, qui est portée beaucoup par des organismes internationaux aujourd'hui comme l'OMS.
L'OMS.
L'OIE, qui est donc l'Organisation des animaux, la santé animale, la FAO, qui déjà ont fait un énorme travail pour que les vétérinaires et les docteurs se rapprochent. Ce qu'a fait Rachel Carson, hein, mm-hmm. parce que si vous lisez dans son livre, elle a des rapports de vétérinaire, elle a des rapports de médecin, enfin, elle l'a déjà fait. Mais il se trouve que par un mouvement de spécialisation, notamment de la science médicale, alors que les fondements sont les mêmes, hein, je rappelle que nous partageons énormément de virus et de pathogènes avec les animaux, mm-hmm. et en particulier avec les animaux domestiques. Serge Morand, qui est un scientifique du CNRS, que j'ai associé à ce film et ce livre que je prépare, a montré dans une étude que plus le temps de domestication des animaux est long, plus on partage avec ces animaux de pathogènes et de virus. Mmh. Voilà. Donc, plus on perturbe donc les relations dans le monde sauvage, plus on provoque ce genre de de pandémie. Enfin, c'est vraiment une condition qui est absolument constatée partout et surtout. Il est important de protéger les animaux sauvages et les forêts, évidemment, parce que ce sont les garants de notre santé. Tout est lié. Et on a besoin, pour en revenir à ce qu'on disait, donc un paradigme qui soit plus global. Donc, soit ça peut être One Health, qui fait que les vétérinaires travaillent avec les médecins, mais aussi avec des écologistes. Mm-hmm. Très heureusement, cette discipline qui pendant très longtemps a été considérée comme une sous-discipline scientifique est en train d'acquérir ses notes c'est une reconnaissance internationale à la faveur de la pandémie du Covid-19. Mmh. Et j'en suis très heureuse parce que les écologistes ont cette vision globale, hein, et on a besoin aussi d'avoir cette vision holistique dans les centres de décision gouvernementaux. Mmh. C'est-à-dire ne plus travailler par silo, c'est-à-dire la santé dans un coin, la biodiversité dans l'autre, tout est lié.
L'agriculture dans un autre, etc., etc.
Voilà, et c'est ce que dit d'ailleurs Rachel Carson, hein, quand on balance des insecticides ou des pesticides, eh bien il faut s'interroger sur les conséquences qu'il y aura, que ça peut provoquer sur la santé des animaux ou des humains.
Un exemple d'ailleurs de cette vision systémique chez Rachel Carson, un extrait encore du Printemps silencieux, Marie-Monique Robin.
L'une des fonctions majeures de l'eau est de participer à l'entretien de la chaîne de vie qui commence par les microscopiques cellules vertes du plancton dérivant en surface, passe par les petites puces d'eau, atteint les poissons qui filtrent le plancton de l'eau pour se nourrir et sont mangés à leur tour par d'autres poissons ou par les oiseaux, les martres, les ratons laveurs, dans un perpétuel transfert cyclique de substances d'une vie à l'autre. Les minéraux contenus dans l'eau circulent ainsi d'anneau en anneau le long de la chaîne alimentaire. Pouvons-nous dès lors imaginer que les toxiques que nous introduisons dans l'eau ne pénétreront pas eux aussi dans le système ?
Voilà un extrait du Printemps silencieux, page 88 dans l'édition française, paru chez Wide Project. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette vision effectivement, qui fait que cette chaîne de la vie, comme le dit Rachel Carson, conduit jusqu'à nous ? Marie-Monique Robin.
Eh bien, tout est interconnecté, très clairement, et nous sommes une espèce qui a d'extraordinaires capacités, et j'espère d'ailleurs qu'elle saura les mobiliser pour faire face à tous ces grands enjeux qu'avait déjà entrevu Rachel, et en partie décrit d'ailleurs, hein, pour éviter que nos enfants et petits-enfants vivent sur une planète totalement invivable. Mmh. Tout est lié, et donc on a besoin de cette vision globale, alors que ça peut être, comme je disais, One Health, mais il y a aussi un nouveau concept qui vient de sortir en 2015 avec le soutien de la Fondation Rockefeller dans The Lancet, qui regroupe pas mal de scientifiques qui ont cette vision, qui s'appelle Planetary Health, mm-hmm. qui en plus de One Health, si vous voulez, dit qu'il faut aussi tenir compte des limites de la planète, vous savez, les fameuses mm-hmm. limites qu'on est censé ne pas dépasser, parce que si on les dépasse, eh bien, on va vers de... Je veux pas dire
des catastrophes en tous les cas.
Ouais, je veux pas casser le moral de nos auditeurs, mais enfin, vers vraiment, oui, des catastrophes, vraiment. Et donc, tenir compte à la fois du changement climatique, de la perte de la biodiversité, des problèmes de la pauvreté. Je donne un exemple. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de la viande de brousse.
Oui.
Il faudrait que les Africains, ils arrêtent de manger de la viande de brousse. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Il y a une étude qui montre au Ghana, par exemple, comment les grandes compagnies de poissonnerie européenne ont conduit à l'effondrement de la pêche locale et du coup plus de poissons sur les marchés africains et du coup les populations pour avoir accès à des protéines se rabattent sur la faune sauvage. Vous voyez, donc tout est lié, hein. Encore une fois, tout est lié. Donc cette vision globale, elle doit inclure tous ces experts qui sont à la fois scientifiques dans différentes disciplines, mais aussi les experts de terrain.
Ce que vous appelez les experts de terrain.
Voilà. Vous verrez dans mon prochain film et livre, les réserves de biosphère qui sont portées par l'UNESCO, qui d'ailleurs soutient mon film, eh bien, sont des exemples dont on doit s'inspirer impérativement pour renouer avec la nature. Hein. Cesser de penser qu'elle est simplement un réservoir de ressources dans lequel on peut y piocher habitam aeternam. Non, là, ça y est, on est au bord du gouffre, on est à la croisée des chemins, et les peuples indigènes, les réserves de biosphère, sont tout à fait capables de nous enseigner ce que nous avons perdu. Voilà.
Est-ce
que
vous
monter les uns contre les autres, mais c'est, là, encore une fois, c'est la vision globale, elle passe aussi par ça.
On va bientôt arriver à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce prix Rachel Carson, dont vous êtes la seule lauréate française? C'est un prix qui récompense des femmes, comme Rachel Carson, qui ont fait progresser la connaissance, justement, de la connaissance environnementale, c'est cela?
C'est ça. Donc, c'est accordé tous les deux ans, une femme qui peut être de n'importe quel continent, donc... Il y a Renate Künast, qui est l'ancienne ministre de l'Environnement allemande, mais il y a aussi Theo Kelbaum, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est effectivement, ça récompense l'œuvre d'une femme qui a défendu la planète. Et je pense qu'on a toutes, qui défend toujours, la vie sur la Terre. Voilà. Et je pense qu'on a toutes en commun, parce que j'en ai rencontré plusieurs quand on m'a remis le prix en 2009, en Norvège. Cette phrase de Rachel Carson que je trouve extraordinaire et que j'ai mis en exergue de mon livre Notre poison quotidien, je ne pourrais vivre en paix si je gardais le silence. Moi, c'est ça qui me motive. Hein. Moi, je suis un pont, vous voyez, entre les scientifiques et le public. Je suis là pour essayer d'expliquer des choses compliquées, etc. Mais ce qui m'anime, c'est ça, c'est qu'il faut absolument agir pour changer le cap. Et comme je l'ai montré dans d'autres films, la bonne nouvelle, c'est que quand on le fait, eh bien, ça va mieux qu'avant. C'est toutes les initiatives de transition que j'ai montrées dans mes films précédents. Donc, voilà. Et le prochain film et livre, c'est ça aussi, c'est de montrer qu'en fait, on a les clés en main. On n'est pas obligé d'être confiné ad vitam aeternam ou de rentrer dans une ère de confinement chronique, comme prédisent certains scientifiques que j'ai interviewés. J'en ai interviewé 65 pour cette enquête. On peut, activer cette vision globale à tous les niveaux. Et faire en sorte que, eh bien, nous soyons assurés que nos enfants puissent vivre dignement sur cette planète. Voilà.
Ah oui, et donc, alors, votre livre, vous êtes en train de finir de l'écrire, et merci d'avoir pris un peu de temps pour pouvoir participer à cette Avoir raison avec Rachel Carson. Il sera publié en octobre prochain à La Découverte, La Fabrique des Pandémies. Et puis, votre film, eh bien, c'est pour un peu plus tard, vous l'avez dit, donc 22 mai 2022 dans un premier temps, puis ensuite, il sera disponible gratuitement pour tous ceux, une fois qu'il aura été exploité en salle, pour tous ceux et toutes celles qui voudront l'utiliser, justement, pour comprendre le mécanisme des pandémies. Il faut dire effectivement que c'est assez rare pour être souligné. Merci à vous, Marie-Monique Robin.
Et avant ça, vous pouvez le soutenir en préachetant le DVD, parce qu'on a lancé une grande campagne de crowdfunding sur le site de M2R Film. Et vous pourrez suivre en direct toute mon enquête, mon tournage d'ici la diffusion sur Rochaïa TV. Voilà.
Merci beaucoup, Marie-Monique Robin.
Merci à vous.
C'était Avoir raison avec Rachel Carson. Aujourd'hui à la technique, Jérémy Kaufmann. La recherche musicale était signée François Merlin de la discothèque de Radio France. Et les lectures et la réalisation de cette émission étaient donc signées Asia Ralid. Demain, nous recevrons Guevara Ivar Jaanzouz, qui a travaillé justement sur la question du genre chez Rachel Carson.